Mais d'abord, Luc Lavoie, mon cher Luc, bonjour.
Salut Bernard. Oui.
Alors, grosse nouvelle, on vient de l'entendre là. Hein, les inhalothérapeutes non vaccinés verront leur permis d'exercice suspendu.
Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'avait demandé M. Dubé plus tôt aujourd'hui, puis il avait commencé les démarches avant ça. Alors, voilà, l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes va suspendre le permis d'exercice des membres qui sont non adéquatement vaccinés le 15 octobre.
C'est ça. Et le Collège des médecins a déjà dit qu'il ferait la même chose, Luc.
Voilà.
Et je veux juste te dire, parce que j'ai de l'information là, qui m'arrive de Québec, je veux juste te dire, à Québec, ils commencent à s'impatienter que l'Ordre des infirmières rende sa décision. Je peux te dire, là, ils commencent à avoir hâte, parce que l'Ordre des infirmières a dit, on étudie, on discute, on demande des précisions, etc., etc. Tu sens là, qu'ils branlent dans le manche, là, mais je peux te dire une chose, à Québec, le message que j'ai eu, c'est, hey, l'Ordre des infirmières, mettez vos culottes, prenez vos responsabilités, puis n'attendez pas que ça vienne du politique. Vous clamez votre droit à l'autonomie comme ordre professionnel, ben là, c'est le temps de l'exercer dans le sens du monde. Je veux juste te transmettre ce message, Luc, ainsi qu'à tous les auditeurs.
Ben c'est très important. C'est même très, très important. Mais comment se fait-il que l'Ordre des infirmières taponne? Pourquoi est-ce qu'ils taponnent? Pourquoi? Ils ont-ils encore des chicanes entre eux? Je sais pas quoi. Faut jamais que les gens qui sont en tête des ordres professionnels du Québec, faut jamais oublier que le rôle premier de ces ordres professionnels, c'est la protection du public. C'est vrai pour tous ceux qui sont sous la houlette de la loi sur les professions.
J'ai quasiment le goût d'éclater de rire, Luc.
Pourquoi?
Ben parce qu'on sait tous que les ordres professionnels, plus souvent qu'autrement, protègent l'intérêt corporatiste de leurs membres avant de protéger l'intérêt du public.
Non, je te comprends. Je te comprends, mais écoute. Ça devient du corporatisme à l'état pur.
Voilà.
Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement a quelque chose à dire dans la gestion de l'ordre des professions. Alors, à un moment donné, s'ils ne veulent pas fonctionner avec le reste de la société, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Ils vont y passer, parce que c'est facile, à mon avis, de faire valoir que si c'est la protection du public, avoir le vaccin quand on est travailleur de la santé, c'est fondamental. C'est fondamental.
Voilà, mon cher.
Espérons. En Ontario, ils ont commencé, eux.
Oui, oui bien, vas-y.
Ontario,
vas-y.
Là, c'est Radio-Canada qui a fait un décompte. À l'heure actuelle, une trentaine des 141 hôpitaux de la province, au moins 250 employés ont été suspendus sans salaire et ont été renvoyés pour ne pas s'être conformés à la politique de vaccination. Ça varie de région en région, mais fondamentalement, je vais citer le docteur Anthony Dale, qui est le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. Les travailleurs de la santé dans les hôpitaux de l'Ontario sont tenus de présenter des preuves d'immunité contre certaines maladies transmissibles telles que la rougeole, la rubéole, la varicelle, la tuberculose, etc. au moment de l'embauche. Il n'y a en fin de compte aucune raison de traiter le vaccin contre la COVID différemment. On ne saurait dire mieux, et ce qu'il dit là, le président de l'association, c'est vrai partout. C'est complètement vrai. Tu dis, écoute, c'est la protection du public, ils sont obligés d'être vaccinés contre la rubéole, la varicelle. Mais la COVID, non. Je leur rappellerai que la COVID, à l'heure actuelle, a fait essentiellement 5 millions de morts.
Alors Luc, tu me permets une question?
Oui.
Est-ce qu'il y a une différence entre ce que le Québec a décidé par rapport à son personnel soignant, est-ce que l'Ontario a décidé ou est-ce que c'est exactement une copie carbone, comme on dit?
C'est pas exactement. Il y a beaucoup de nuances, mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais l'essentiel, c'est la même chose. Là. Mais c'est pas exactement la même mécanique, non. Puis en Ontario, ils ont repris le dessus, hein, parce que tu te souviens, Bernard, qu'il y a à peu près un mois et demi, là, l'Ontario, c'était l'enfer. Là. Et soudainement, ils sont à peu près... En fait, ils ont moins de contamination que nous. Tu vois, nous autres, on est dans le 500-600 par jour, puis eux autres sont dans le 500-600 par jour. La différence, c'est qu'ils ont le double de la population, ou presque. Alors, voilà. Veux-tu que je te parle du prix Nobel de la paix, Bernard?
Ouais, ben, j'aimerais ça que tu me racontes. C'est deux journalistes qui ont obtenu le prix Nobel de la paix.
Une dame des Philippines, Maria Ressa, et le Russe Dmitri Muratov. Le prix Nobel de la paix a récompensé ces deux journalistes-là consécration d'une liberté de presse menacée par la répression, la censure, la propagande et la désinformation. Alors voilà ce que disait le président du comité Nobel. Les deux lauréats sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables. Alors, bon. Maria Ressa, elle est originaire des Philippines, mais elle est aussi de nationalité américaine. Elle a fait ressortir la folie, en quelque sorte, du président Duterte qui invitait ses citoyens à tuer les autres, voici, si on les voyait en train de fumer un joint de pot. Enfin, c'est un peu spécial. Alors, bon, alors on... Et l'autre, évidemment, Dmitri Mouratov, là, c'est le fameux Novaya Gazeta, le journal que Poutine cherche une occasion pour le fermer, là, parce oui. que, bon, et on se souvient qu'une des journalistes, il me semblait que j'avais son nom, Bernard,
Anna Politko, attends un peu, Anna Politkovskaya, oh, sacrifice, Anna Politkovskaya, voilà, Anna
Politkovskaya,
Anna Politkovskaya, bon, alors
cette dame-là, là, elle a été assassinée dans l'entrée de son bloc appartement, mais vraiment un crime de professionnel. Là. Il est arrivé un tueur à gage, bang, bang, puis il est parti. Elle faisait enquête sur la corruption en Russie. Alors donc, cette Novaya Gazeta continue d'exister contre vents et marées, compte tenu, et aussi la menace que Poutine les mette en prison, c'est toujours dans le décor. Alors, c'est la première fois dans 120 ans d'existence que le prix de prix Nobel de la paix est remis à des gens qui luttent pour la liberté de la presse. Eh bien, voilà, félicitons-nous tous. Non, mais écoute, c'est sérieux, le prix Nobel de paix, là. Alors,
Puis c'est sérieux. Puis c'est sérieux le travail que les journalistes russes font. Politkovskaya, merci, là, Politkovskaya. Mm-hmm. Bon, je tiens à le prononcer comme du monde, son nom, là, parce qu'elle mérite, honnêtement, là, elle est passée à l'histoire comme une journaliste absolument... pas juste courageuse.
Sans peur.
Sans peur et d'une intégrité sans faille. Et elle a vraiment voulu dire la vérité sur la corruption de la Russie de Poutine et elle a payé de sa vie pour ça. Alors, donc, Politkovskaya, Anna Politkovskaya, ça m'a pris du temps, là, mais c'est ça pareil. Puis souvenez-vous-en, tiens, parce que j'ai travaillé fort. vous en souveniez, parce qu'elle mérite. Hein, elle mérite qu'on s'en souvienne de son nom.
Oui, tout à fait. Et Reporters sans frontières a donné la situation de la liberté de presse est problématique, difficile, voire très grave dans près des trois quarts, c'est-à-dire 73% des 180 pays évalués est bonne ou satisfaisante dans seulement 27%. Alors, ici, nous en sommes témoins, nous en sommes même des acteurs, Bernard. La liberté de la presse, c'est une réalité. Moi, je travaille avec Cogeco, puis comme toi, Bernard, puis il n'y a personne qui vient nous dire quoi penser puis quoi dire. Hein? C'est comme ça que ça marche.
Non, absolument.
Et nous il faut chérir la liberté de la presse, hein? Ouais. Parce que c'est le moyen, pas de combattre, mais c'est le moyen de tenir les gens informés et de pas constamment être bombardés par de la propagande. Voilà.
Non, mais puis l'autre chose, Luc, c'est que c'est le genre de choses qu'on prend pour acquise, la liberté de la presse. Puis, tu sais, on est une démocratie parmi les meilleures au monde, là. Puis,
en termes institutionnels, oui.
Je dis pas qu'elle est parfaite, là. Au contraire, là, je veux dire, il y a beaucoup
de choses. Il n'y a jamais rien de parfait, mais.
Quand on se compare, Luc, là, on sait qu'on vit dans l'une des meilleures ou des démocraties, je vais le dire comme ça, des démocraties les plus fortes, OK? Peut-être
et
pas.
Et les moins corrompues et les plus intègres. Je le pense sincèrement, ayant voyagé comme toi. Alors, c'est un fait et réjouissons-nous, là. On est dans un environnement où les idées peuvent circuler. Bon, il y a des espèces de mouvements sociaux comme les woke puis ces affaires-là, mais moi, je pense que Bernard, ça durera pas. Ça, c'est une espèce de folie passagère qui va disparaître.
Ah, ça, j'ai hâte de voir. Ça, j'ai hâte de voir, Luc. Mais chose certaine, ce qu'on prend pour acquis, on s'en rend compte, est loin d'être acquis dans le trois quarts des pays de la planète.
Voilà.
Voilà. Je parle de la liberté de la presse. Alors, tu sais, puis on pourrait... Ça, on parle de la liberté de la presse aujourd'hui, mais on pourrait parler de d'autres libertés. Tu sais, moi, sûr. Par exemple, si tu me permets la petite parenthèse, quand j'habitais au Mexique, un des plus gros problèmes au Mexique, c'est l'accès à la propriété et le fait que quand tu occupes un terrain, souvent... tu n'en es pas propriétaire. Tu finis par l'occuper, puis tu espères qu'un jour, l'État va te donner une espèce de titre officiel qui dit ce petit lopin de terrain sur lequel tu t'es construit, que tu occupes illégalement, ben tu as maintenant la propriété de ce petit lopin, et donc ton occupation devient légale, et le terrain t'appartient, donc un jour, tu pourras l'hypothéquer ou le revendre, puis ça devient à ce moment-là un bien matériel, ça devient une source d'enrichissement. Mais au Mexique, puis dans la plupart des pays d'Amérique latine, tu n'as pas ce qui s'appelle le registre foncier. Tu sais, t'as pas de... Alors, à un moment donné, l'État débarque puis dit le terrain que t'occupes depuis 25 ans avec ta famille, c'est à moi ça. Ouais. Ça t'appartient pas. Tu pensais que c'était à toi, tu pensais que... Tu sais, alors ça, nous autres, on a ça ici. Tu sais, il y a un endroit où tu peux retrouver toutes les transactions. Quand tu vas chez le notaire va fouiller là-dedans pour s'assurer que le terrain que tu t'apprêtes à acheter ou la maison sur laquelle tu t'apprêtes à acheter est libre de tout, de toute contestation. Tu comprends?
Oui.
Bon, mais ça, c'est... On le prend
ça,
pour acquis.
Et ça, c'est bon que tu le soulignes, Bernard, parce que tu parles du Mexique, mais c'est un des grands problèmes dans le monde entier. Ça, c'est comment on gère la propriété. La propriété exact. Du terrain, de la maison, la propriété de quelque chose qui correspond à quelque chose d'immuable, un terrain, c'est pas... on est chanceux ici, parce que je te jure qu'ailleurs, tu viens de le souligner, c'est compliqué, mais c'est incroyable.
Voilà. Alors, mon cher Luc, je te souhaite un très bon week-end.
À toi aussi.
Hein, prends soin de toi. Et puis, on se reparle mardi.
Week-end, bonne action de grâce, oui. Salut.
Absolument, absolument. Salut. OK, Serge Chapleau, qui sera, récompensé, dont la carrière sera reconnue officiellement par un timbre. On lui parle après la pause.